religions du monde, Geneviève Delru.
Nous sortons enfin. Nous traversons la cour transformée en scène de crime. Des traits de craie délimitent l'endroit où les corps sont tombés, forment des cercles au sol entourant les douilles de balles, tracent des trajectoires. Mon école est une scène de crime. Le grand portail vert est ouvert, les parents attendent leurs enfants. Nous sommes encadrés de policiers qui font leur maximum pour que nous ne voyions pas l'horreur qui nous entoure. Comment ne pas voir les flaques de sang qui recouvrent le sol ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a 10 ans, le lundi 19 mars 2012, un peu avant 8h, au collège lycée juif Ozar à Torah, Arié et Gabriel Sandler, 5 et 3 ans, Myriam Monsonego, 8 ans, Jonathan Sandler, le père d'Arié et de Gabriel, sont abattus à bout portant par Mohamed Merah. Cette tuerie fait suite à l'assassinat, les jours précédents, par le terroriste islamiste Mohamed Merah, de 3 militaires, dont 2 de confession musulmane, à Toulouse et à Montauban. Jonathan Chétrit a alors 17 ans au moment de l'attentat. Il est élève en classe de terminale, il est interne. 10 années se sont écoulées depuis cette journée qu'il retrace dans Toulouse, 19 mars 2012, l'attentat de l'école Ozar HaTorah par ceux qui l'ont vécu. Un témoignage donc publié chez Albin Michel. Jonathan Chétrit, bonjour.
Bonjour.
Ce récit, il est sobre, il est brut. Il rassemble donc les témoignages des élèves, des professeurs et aussi des parents. Alors, une première question, pourquoi 10 ans après avoir écrit ce livre, est-ce que c'est pour se réparer, finir sa réparation ou la poursuivre? Est-ce que c'est pour rappeler que 4 personnes, dont 3 enfants effectivement, ont été assassinées parce que juifs et que finalement on n'en a pas beaucoup parlé quand on voit, quand on se souvient des manifestations qui ont suivi les attentats de Paris? Là, il n'y a pas eu de grosses manifestations, uniquement à Toulouse.
Une
vraie manifestation à Toulouse.
Tout à fait. C'est pour toutes les raisons que vous évoquez. Le devoir de mémoire, évidemment, qui m'importe beaucoup. Donner la parole aux victimes, aux témoins, directs, indirects. Libérer enfin la parole, pour de bon. Mettre la lumière sur cet événement, sur les victimes, comme vous le précisiez. Je pense qu'en 2012, on n'a pas saisi la gravité de cet événement. Les Français ont mis une distance, sûrement malgré eux, entre ce qui venait de se produire et leur propre histoire, leur propre vie du quotidien. Et je pense que différents facteurs ont poussé les Français à mettre cette distance. Et vous le disiez, on a parlé d'enfants juifs, alors qu'on aurait dû parler d'élèves au sein d'une école de la République française. On a parlé d'écoles juives, alors que c'est une école sous contrat où 80 ou 90% des enseignants ne sont pas juifs. Effectivement, il y a une vie juive au sein de cette école, mais à côté de ça, on a cours de français, de mathématiques et d'histoire comme dans toutes les autres écoles de France. Et cette école aurait pu être une autre école qu'on a au bout de sa rue. Ça a été l'école Ozar HaTorah. Et malheureusement, effectivement, je pense qu'on n'a pas pris conscience de ce qui venait de se passer.
C'est une école de la République. Est-ce que ça n'est pas une école qui, de façon inconsciente, aurait été perçue comme une école israélienne?
Je pense que...
Et ce qui expliquerait... D'une certaine façon aussi, ce silence.
Je crois que le fait de parler d'école juive pousse à la confusion, porte à la confusion. C'est-à-dire que les Français, en entendant école juive, se sont sûrement dit école juive, donc israélite. Mais il faut voir au-delà de ces termes, justement, qui sont parfois mal employés, qui créent la confusion. Il fallait vraiment parler d'école de la République française parce que ça, c'en est une, en tout point.
Oui, comme une école catholique sous contrat.
Exactement.
Une école dans laquelle vous avez été particulièrement heureux, puisque vous y arrivez à l'âge de 13 ans. Vous avez perdu votre mère quelques années avant. Et vous allez vivre dans cette école comme on vit dans une famille.
Tout à fait. C'est une grande famille et je ne peux pas m'empêcher d'en parler avec le sourire à chaque fois. Parce que dès mon arrivée, je trouve la famille dont j'ai besoin. Une présence maternelle en l'épouse du directeur, Yaffa Monsonego, des enseignants très présents, vraiment dévoués pour la réussite de chacun des élèves. Je crois que l'ambition première du directeur, M. Monsonego, c'est révéler le potentiel de chaque élève, faire en sorte que chaque élève puisse se révéler, puisse aller au bout de ses ambitions, et il nous porte réellement vers la réussite avec beaucoup d'amour. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'y sent aussi bien.
Est-ce que c'est une école où les élèves sont plutôt dans la mouvance orthodoxe, mouvance libérale? Quelle est la...
C'est la force de cette école, encore une fois, c'est que chacun vient comme il est, avec son histoire, son passé, son vécu et son rapport à la religion aussi. Il n'y a absolument pas de critères à l'entrée en disant « il faut pratiquer de telle façon la religion ». Et le directeur qui, lui, est plutôt dans une pratique orthodoxe de la religion,
Monsieur Monsonego,
qui a perdu sa fille Myriam, n'impose en aucun cas aux élèves une pratique comme il la conçoit lui-même. Et c'est toute la force de cette école. C'est aussi une diversité. Il y a une diversité réelle au sein de cette école. Mais c'est ce qui en fait sa force.
Vous étiez plutôt pieux à ce moment-là? Vous l'êtes toujours aujourd'hui?
J'étais pratiquant. Je viens d'une famille plutôt pratiquante, orthodoxe, avec une pratique plutôt orthodoxe de la religion. J'ai pu évoluer dans ma pratique au quotidien, notamment avec l'aide du directeur, M. Monsonego. Et aujourd'hui, je le suis toujours.
Ouais. Alors, vous étiez donc interne. Ça veut dire que vous avez connu la famille Monsonego. Vous avez connu Myriam, qui était un peu votre petite sœur.
Tout à fait. La petite sœur de tous les élèves.
La petite fille aux tête d'ange blond, yeux bleus.
Exactement. Cet ange aux cheveux blonds, aux yeux bleus, avec son sourire radieux. Elle illuminait la cour. Partout où elle passait, elle était radieuse et on l'a remarqué parce qu'elle était belle, parce qu'elle était douce, parce qu'elle était souriante. Et c'était une petite fille avec beaucoup de pudeur aussi, parce qu'elle a évolué évidemment dans une famille pieuse et dans la pratique de la religion. Et elle avait parfois cette distance un petit peu avec les garçons. Elle n'osait pas forcément, ou en tout cas moi quand j'essayais d'aller la chercher pour la taquiner ou pour jouer avec elle, il lui arrivait parfois de partir se cacher derrière sa mère parce que bon, elle voulait mettre cette petite distance. Mais c'était une enfant, c'était vraiment une enfant et notre petite sœur.
Qui aimait danser et elle disait « je suis la princesse, je suis une princesse, ouais. Une princesse de Dieu, c'est ça ?»
C'est ça, une petite princesse juive qu'il faut préserver et il faut faire attention à son comportement. Il y avait ce souci vraiment d'avoir un comportement exemplaire et d'avoir une attitude décente. Et ce qui est incroyable, c'est justement d'avoir ce souci-là à 8 ans.
Les deux petits garçons, les deux petits Sandler, vous les connaissez bien ? Vous les avez gardés, vous avez fait du babysitting, c'est ça?
Tout à fait, j'ai eu l'occasion de les garder plus d'une fois. Et je parlais de Myriam comme notre petite sœur, et Harry et Gabriel, c'est nos petits frères. J'ai ces moments en tête qui m'accompagnent tout le temps, où je revois Harry et Gabriel qui essayent de grappiller quelques minutes avant d'aller dormir, en train de jouer ensemble. C'était deux frères très solidaires, qui aimaient vraiment être ensemble, qui jouaient souvent ensemble, qui pensaient toujours à l'un et à l'autre. Il y avait beaucoup d'amour dans cette famille en général et entre ces deux frères, ils étaient tout le temps là à jouer avec leur petite sœur Liora aussi et Liora les adorait, elle aimait être présente alors que c'était qu'un bébé de un peu moins d'un an, mais elle aimait être là dans les activités, les puzzles, etc. Et c'est des souvenirs qui m'accompagnent.
Et son grand-père, Samuel Sandler, donc, qui a perdu à la fois son fils et ses deux petits-fils, disait que cette petite fille a cherché son père et ses petits frères pendant très longtemps, pendant des années.
C'est tragique. Vraiment, c'est des phrases qui, au moment où j'ai eu la chance de rencontrer Samuel Sandler, qui me racontait ces moments, j'ai encore la voix de Samuel Sandler qui me raconte ces moments où un jour, elle a dit en montant dans l'avion qu'elle allait au ciel et qu'elle allait pouvoir rencontrer son père et ses frères.
Oui, son grand-père qui montre une vidéo qui, au bout d'un moment, elle dit non, je veux les voir, c'est en vrai que je veux les voir. C'est en vrai que je veux les voir. Oui, effectivement, il faut souligner, on en reparlera, de Samuel Sandler, qui est un homme, pareil, d'un courage incroyable.
Un courage et une dignité.
Une dignité,
oui. Une dignité, il y a beaucoup de dignité dans son combat et beaucoup de dignité toujours dans son comportement, dans ses mots. Et ces gens ont vu leur vie basculer dans l'horreur et 10 ans après... Même nous, anciens élèves de l'école, en ayant été présents, en ayant vécu de l'intérieur ce drame, on n'arrive pas à s'imaginer ce qu'eux ont pu vivre.
Et la Eva, donc,
et Eva aussi,
l'épouse, qui a perdu à la fois son mari et ses deux enfants. Elle fait preuve d'un courage inouï.
Très vite, elle s'est relevée d'une manière exemplaire, presque incompréhensible.
Presque le jour même.
Quasiment.
Quasiment.
Quasiment. Ouais. Quasiment. Elle était déjà avec des mots réconfortants pour les autres quand c'est nous qui aurions dû la réconforter, elle. C'est la force de ces personnes-là qui ont été touchées dans leur chair, dans leur sang, et qui avaient les mots pour nous réconforter, nous. Et je crois sincèrement que la reconstruction qu'on a pu entamer et la reconstruction qu'on a, dans laquelle on continue d'avancer et de se battre, elle est réussie parce qu'on avait ces modèles-là. Et on a puisé en eux la force qui dégageait.
Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que la famille Sandler arrivait d'Israël quasiment. Ils étaient venus, c'était même pas un an
avant. Ils sont arrivés au mois de juillet 2011. Moins d'un an avant, effectivement, pour s'installer, prendre un petit peu leur repère à Toulouse. Alors, Jonathan Sandler connaissait déjà Toulouse puisqu'il avait lui-même été élève au sein de cette école. Et finalement, ce retour à Toulouse, c'était une façon pour lui de rendre tout ce que cette école avait pu lui apporter. Et d'ailleurs, je fais leur rencontre le premier jour, en juillet 2011, lorsqu'ils arrivent dans l'établissement pour justement s'installer dans leur appartement. Et c'est là que je les rencontre pour la première fois.
Alors, il y a une photo sur la quatrième de couverture de votre livre, Jonathan Chétrit, Toulouse, 19 mars 2012, l'attentat de l'école Ozar HaTorah par ceux qui l'ont vécu. Alors, cette photo, il respire la bonté, cet homme. Il respire la jovialité. Je me trompe ou pas?
Absolument pas. Quand je parle de Jonathan Sandler, je ne peux pas m'empêcher de sourire aussi. Parce que tous les souvenirs que j'ai avec lui sont des souvenirs de moments de joie, de gaieté, de partage. Jonathan était réellement et sincèrement tourné vers l'autre. Il avait ce souci de son prochain. Il avait toujours envie de s'intéresser aux autres. Il avait cette curiosité, mais dans le bon sens du terme, cette volonté vraiment de venir aider son prochain, s'intéresser au parcours de vie de chacun, poser des questions, d'où tu viens, pourquoi tu es ici, parce que tous les internes avaient leur histoire et leur passé. Et il avait cette envie-là d'aider les autres. Et à chaque fois qu'il nous parlait, c'était pour des bonnes paroles, pour des conseils, des recommandations. Et toujours avec ce sourire qui est présent sur cette photo, parce que je crois qu'on n'a pas de photo de Jonathan sans sourire.
C'est le genre de prof qu'on aime avoir. Il était professeur de théologie.
Exactement. Il enseignait en fait la religion juive au travers de textes et il faisait des études de textes qu'il nous partageait ensuite aux élèves de l'école.
Alors, Jonathan Chétrit, on passe à cette journée du 19 mars 2012. Racontez donc à travers tous ces témoignages multiples que vous avez recueillis. Vous êtes plusieurs fois, bien sûr, dans le livre. Vous racontez vous-même, bien sûr, ce que vous avez vécu. Alors, on va s'en remettre chronologiquement la scène. C'est un petit peu avant 8 heures. Vous êtes à la synagogue pour la prière du matin.
Tout à fait.
Et vous entendez des coups de pétards de feu, comme il y avait eu Pourim peu de temps avant. Ça pouvait être des pétards, en fait.
C'est exactement ça. Au moment où les coups de feu se font entendre pour la première fois, c'est une rafale d'abord de coups de feu qui éclate. Et je me doute que ce bruit n'est pas habituel ni normal, mais je l'assimile à des pétards parce que la fête de Pourim s'était passée 10 ou 15 jours avant. Et donc, c'est la seule explication rationnelle que je puisse trouver. Et de ma place, j'ai une vue assez dégagée sur l'entrée de l'établissement à travers des portes vitrées et je le vois entrer à ce moment-là. J'ai ce souvenir quand même de cette démarche assez froide, presque robotique finalement. Et j'essaye de comprendre ce qui se passe, mais des coups de feu retentissent encore. Et dans l'agitation aussi qui commence à prendre à l'extérieur, j'ai du mal à voir tout ce qui se passe. Je vois une ombre tomber. C'est ce que j'explique dans le livre et je parle toujours de ce moment avec beaucoup de précaution parce que mon but n'est pas de raconter des choses qui seraient fausses. Mais il s'avère que cette ombre est Myriam finalement et je l'apprendrai par la suite. Et tout va très vite. Il se dirige vers la synagogue parce qu'il a cette volonté d'atteindre un maximum de personnes, mais son arme s'enraye. Il n'a pas d'autre choix que de faire demi-tour. Je le vois absolument pas faire demi-tour, mais j'entends à ce moment-là concomitamment la CPE arriver en hurlant et en disant « il y a un tireur dans l'école ». Et elle confirme donc que ce n'était pas des pétards et qu'on est bien en train d'être la cible d'une attaque terroriste.
Et là, vous allez partir avec un groupe d'élèves dans une réserve où vous allez rester plusieurs heures.
Alors, on reste dans cette réserve plusieurs minutes.
Minutes.
Avant d'être confiné dans un réfectoire où là, on restera plusieurs heures.
D'accord, c'est dans le réfectoire.
C'est dans le réfectoire. Mais on est conduit. Alors, je prends l'initiative au départ de conduire les élèves dans une réserve qui est en sous-sol d'un bâtiment. On s'y cache quelques minutes. On n'a pas d'informations supplémentaires. On ne sait pas s'ils sont plusieurs, s'il est parti, s'il est revenu. On est quand même dans un sentiment d'insécurité assez fort et assez violent. Je prends mon téléphone pour enfin appeler mes proches et pour les prévenir que je suis sain et sauf parce que je me doute quand même que l'information va vite circuler. Et à ce moment-là, on a le feu vert, on peut enfin sortir parce qu'il est parti, parce que la police est arrivée sur place et on est confiné dans un réfectoire où là, on restera plusieurs heures à l'intérieur. Et c'est un moment que je décris aussi dans le livre Un moment qui, pour ma part, m'a beaucoup marqué.
Oui, parce que vous allez sortir dans la cour, alors que normalement, vous n'auriez pas dû. Et c'est là où vous voyez des linceuls, enfin des,
exactement,
des corps recouverts de drap blanc.
Je sors dans... Je sature dans cette... Dans ce réfectoire, c'est beaucoup trop difficile. Il y a énormément d'enfants qui souffrent aussi. Et c'est des moments de souffrance, réellement. Ce n'est pas une hystérie collective non plus, mais c'est des moments de souffrance, de douleur. Et je prends la liberté de sortir et je cours vers l'entrée de l'école, pensant naïvement que je vais pouvoir m'enfuir. Et en fait, je tombe sur des flaques de sang sur le sol de la cour de récréation, et je vois à l'intérieur du hall de la synagogue des linceuls et des corps recouverts et des pompiers qui s'agitent autour de ces corps et du sang partout dans le hall de la synagogue.
Alors, ce qui est terrible, c'est qu'avant, des élèves ont essayé de faire du bouche à bouche, notamment sur Myriam.
Sur Myriam et sur les enfants de Rav Sandler aussi. Il y a eu cette...
Cette mobilisation
incroyable de la part d'élèves qui étaient vraiment jeunes, des enfants qui avaient 14, 15, 16 ans, qui ont eu ces réflexes. Alors, je ne sais pas d'où ils ont eu cette force, mais je pense que c'est l'adrénaline et qu'on a tous mis nos émotions un petit peu à distance, finalement, et qu'on est rentré dans l'opérationnel. Juste l'opérationnel, aider et se rendre utile. Effectivement, il y a des élèves qui ont tenté de réanimer Myriam, qui ont tenté de réanimer... les enfants de Jonathan Sandler, en vain, parce que l'assassin s'est assuré qu'il ne puisse être sauvé.
Vous écoutez Religion du Monde, notre invité est Jonathan Chetrit pour son livre Toulouse, 19 mars 2012, l'attentat de l'école Ozar HaTorah par ceux qui l'ont vécu. Deuxième partie de votre livre, le procès, les procès. Je précise qu'aujourd'hui, vous êtes avocat.
Oui.
Est-ce que d'ailleurs, ça a un lien? On peut le supposer, non?
Inconsciemment, je suis sûr que oui. Parce que très vite après l'attentat, on a été mis en contact avec des avocats et les process judiciaires ont été entamés et je pense que j'ai vite découvert une profession qui me plaisait. En rentrant à Paris, j'ai commencé des études en économie et gestion, donc absolument rien à voir avec le droit. Et finalement, un an après, j'ai décidé d'aller à la Sorbonne pour commencer à étudier le droit. Donc je pense qu'inconsciemment, c'est lié.
Dur ce procès 2017. Il faut affronter le regard du frère de Mohamed Merah, qui lui ressemble beaucoup physiquement.
Oui.
Et
ouais.
Ça, c'est une épreuve. Et il est froid, il est sans regret.
Il est froid, sans regret, mais surtout, il y a un détachement qui, moi, me perturbe et me dérange au cours des audiences. On a l'impression qu'il ne se sent absolument pas concerné par ce qui se passe. Ça, dans sa posture, dans sa manière de répondre. Il est désinvolte par moment, il est presque hautain face au magistrat. Il précise très clairement que lui, il ne se soumet pas aux lois de la République française, que les lois de la République française sont en dessous des lois auxquelles il adhère. Et vraiment, je crois sincèrement que ces lois ne sont absolument pas les lois que les musulmans revendiquent. C'est vraiment encore autre chose. Et lui, il est dans cette autre chose. Et il a ce dédain, il a ces regards insistants envers les parties civiles, il nous regarde et il tient le regard. Il y a des jeux comme ça qui s'installent de regard où finalement, nous, en tant que partie civile, on n'a absolument pas envie de baisser le regard parce que c'est trop. Mais lui tient jusqu'à ce que nous baissions le regard. C'est quand même...
Mais en lisant votre livre, Jonathan Chetrit, et notamment l'attitude de la mère, ça, on s'en souvient, on a l'impression que c'est d'une famille qui est droguée à l'antisémitisme.
Alors oui, moi, j'ai aucun problème à parler en ces termes. Je pense que souvent, on a eu peut-être un peu peur de dire que c'était une famille complètement antisémite, etc. Mais c'est le cas. Et je crois qu'ils ont été éduqués dans la haine du juif, réellement. Il y a des éléments, des témoignages et autres qui ont permis de le confirmer quand même. Évidemment, la mère qui est venue témoigner, qui était appelée à la barre, a bien évidemment dit qu'elle aimait les juifs puisque son médecin est juif. Mais c'est une haine, il y a une haine profonde. Lui-même se faisait surnommer Ben Ben à la suite des attentats du 11 septembre à New York.
Comme enfin, Ben Laden, oui.
Comme Ben Laden, ça montre quand même l'idéologie et l'éducation qu'ils ont reçue en rapport avec tout ce qui était différent d'eux. Pas que les Juifs, mais tout ce qui était différent de ce que eux pensaient être juste.
Là, on touche au radicalisme
complètement
brut, à l'état brut.
À l'état brut.
La question du pourquoi, vous vous l'êtes souvent posée ou vous avez eu la réponse à travers ce procès, Jonathan Chytrit?
J'ai toujours voulu comprendre pourquoi, et je pense que c'est une question que je me suis toujours posée, de comprendre pourquoi ou comment, à l'âge de 24 ans, on se réveille un matin et on va abattre des enfants de sang-froid. La réponse, on l'aura jamais. Ça, j'en suis convaincu. C'est un acte qu'on n'explique pas et les deux procès ne m'ont pas permis de comprendre pourquoi il a fait ça. Par contre, j'ai compris l'organisation derrière. Et au moment où on parlait de loup solitaire en 2012 et où les médias relayaient beaucoup cette information en disant « c'est un loup solitaire, il a agi seul et il n'est absolument pas aidé ni ne fait absolument pas partie d'une organisation, etc. », les procès ont démontré le contraire. Les procès m'ont permis en tout cas de comprendre que c'est toute une organisation qui a été mise en place, qu'il a voyagé plusieurs fois, qu'il a été formé pour. On a trouvé des milliers de documents dans ses ordinateurs qui expliquaient l'art de la dissimulation. Comment se dissimuler en étant un bon musulman comme eux l'entendent, hein, bien évidemment, mais comment être un bon musulman selon eux et en même temps réussir à se dissimuler, aller en boîte de nuit, boire de l'alcool, se fondre dans la masse pour justement semer le doute et réussir à ensuite perpétrer des actes comme il l'a fait.
Oui, infiltré. Émouvant un passage de votre livre, Jonathan Chytrit, c'est lors du deuxième procès, puisqu'il y a eu deux procès, puisque le premier procès n'avait pas reconnu
la complicité. Tout à fait.
Du frère et puis de l'ami du frère. Donc ce deuxième procès, qui reconnaît là, cette fois-ci la complicité, il y a la mère du militaire assassiné, hein, Imad Ibn Ziaten, qui vous prend la main, c'est ça?
Tout à fait.
C'est un Parce moment que là, vous avez... C'est pas gagné, fort. Mais justice est faite, quoi.
Justice est faite et c'est un moment très fort. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes incroyables au cours de ce procès. Et je pense aux familles des victimes. Il y a eu la famille Le Gouad, Chenouf, Ibn Ziaten. Et on a partagé tant de moments, on s'est raconté nos vies finalement, on s'est raconté nos peines, on a partagé notre peine aussi pendant ces longues semaines de procès. Et ce moment où elle vient et elle me prend la main et en fait, un seul regard suffit pour dire beaucoup. Et on pleure ensemble en se regardant droit dans les yeux et on sait que enfin justice est rendue.
Et elle vous a dit, ça c'était avant, les musulmans c'est pas ça, c'est
bien ça. Sûr, bien c'est sûr. Ça, hein. Et c'est une phrase que je comprends tout à fait. Alors évidemment, elle n'avait pas à me convaincre moi, mais aujourd'hui, le combat qu'elle mène, il est important parce qu'il ne faut pas tomber dans cet amalgame justement de considérer que parce que lui se revendiquait comme musulman, alors les musulmans de France sont comme lui. C'est absolument pas le cas. Et moi, j'ai toujours mis un point d'honneur justement dans le fait d'avoir cette démarche au quotidien, de ne pas me renfermer, de m'ouvrir aux autres. Et au moment où j'ai étudié le droit à l'université, c'était d'être ouvert aux autres, aux chrétiens, catholiques, musulmans, juifs, et peu importe son niveau de religion, sa pratique de la religion. Ça m'a toujours tenu à cœur et c'était important c'est important encore aujourd'hui, 10 ans après, de le rappeler, évidemment.
10 ans après, est-ce que vous êtes craintif, comme vous l'étiez les premières années, à être dans un restaurant, être face à la porte et pas le dos à la porte, enfin, toutes les angoisses que ça a pu susciter, les angoisses physiques, est-ce que c'est toujours le cas ou bien est-ce qu'aujourd'hui c'est moins fort?
C'est toujours le cas, mais c'est la gestion qui est différente. Je gère mieux mes angoisses, je gère mieux ce stress post-traumatique qui, 10 ans après, à mon sens, est toujours présent. Je fais attention quand je vais au restaurant, à l'endroit où je m'assois, est-ce que j'ai une vue sur l'issue de secours ou comment... En fait, la question que je me pose toujours, c'est comment je réagis si ça se reproduit? Qu'est-ce que je fais? Qui je cache en premier ou quand on est en famille? Qui je vais pouvoir protéger et qui, entre guillemets, je vais devoir sacrifier? Quel est le plus grand, quel est le plus petit? Quand je suis avec mes neveux et nièces, c'est toujours ces questions-là qui me traversent l'esprit. Donc je vis avec, et je pense qu'on vit avec en tant que victime d'actes de terrorisme, mais on apprend surtout à vivre avec. La réalité, c'est d'apprendre à vivre avec.
Vous avez grandi très vite après?
Je crois qu'on n'a pas eu le choix de grandir très vite. Je crois que c'est la difficulté aussi. C'est qu'on est forcé de grandir plus vite, alors qu'on aimerait bien prendre le temps de grandir.
Je ne sais pas si c'est vous ou bien si c'est un des témoins de l'attentat qui l'écrit. Difficile d'avoir des enfants quand on a perdu des enfants.
Oui, alors c'est pas moi.
C'est pas vous, non.
C'est pas moi, mais c'est une phrase si juste et si belle et si difficile à la fois, évidemment. Et je pense que c'est un sentiment partagé, encore une fois, par nombreux des témoins de ce 19 mars. On était tellement proches d'eux. C'était comme nos frères et sœurs, neveux, nièces, enfants, finalement. Et je pense que la question de la paternité, et qu'au moment où on deviendra papa, de nouvelles questions arriveront. Et c'est ce que je dis souvent, la reconstruction, finalement, chaque étape de la vie implique des questions au sujet de cette reconstruction. Aujourd'hui, en tant que jeune qui débute la profession d'avocat, etc., et les situations dans lesquelles je peux me retrouver, ça implique de nouvelles questions. Demain, je me marie et je suis papa. Ce n'est pas les mêmes questions qui vont se poser.
Je vous remercie, Jonathan Chétrit. Je rappelle donc le titre de votre livre, Toulouse, 19 mars 2012, L'attentat de l'école aux arts à Torah, par ceux qui l'ont vécu. Et c'est publié chez Albin Michel. Merci.
Merci à vous.
Face à la barbarie du meurtre d'enfants, d'innocents et de civils sans défense, il n'y a pas de raison stratégique qui tienne la route. La seule chose à faire est de mettre fin à l'inacceptable agression armée avant qu'elle ne réduise les villes en cimetières.
Les mots chocs du pape François lors de la prière de l'Angélus dimanche dernier au Vatican. Et on peut s'attendre ce dimanche à d'autres paroles fortes, même si on va le voir, certaines voix ont pu exprimer des regrets que le pape ne nomme pas expressément dans ses diverses interventions l'agresseur russe. Focus dans cette deuxième partie de Religion du Monde sur la mobilisation des églises catholiques, protestantes, orthodoxes en faveur de la paix. Avec notre invité dans ce studio, le père Jif Kopanev, prêtre, théologien, cofondateur du site orthodoxie.com, nous analyserons la réaction des églises de la communion orthodoxe. Elles sont au nombre de 14. Mais on reste quelques instants encore à Rome avec notre correspondant au Vatican, Éric Sénan, qui a rencontré, c'était il y a une semaine, le nouvel ambassadeur d'Ukraine près le Saint-Siège, Andriy Yurash, arrivé en bus à Rome.
Oui, il est arrivé dans des conditions assez rocambolesques puisque les lignes aériennes étaient coupées. Il est arrivé en fait à Rome pour prendre son poste dans la nuit du 3 au 4 mars dernier. C'est vraiment tout récent et la guerre avait déjà éclaté dans son pays. Arrivé en bus par la côte adriatique italienne, par Rimini, puis à Rome. Andriy Yurash, qui est un homme de 53 ans, qui était le responsable des affaires religieuses au ministère des Affaires étrangères à Kiev. Il devait prendre son poste d'ambassadeur d'Ukraine près le Saint-Siège à la fin du mois de mars et son ministre de tutelle lui a dit évidemment il faut que tu partes tout de suite puisque la guerre a éclaté. Il est venu avec un seul de ses trois fils, le petit dernier de 11 ans, laissant les deux aînés en Ukraine, le plus âgé étant un député, il a été même le plus jeune député d'Ukraine et qui aujourd'hui défend la ville de Kiev. Andriy Yurash, je lui ai demandé justement comment il voyait la position du Saint-Siège dans cette guerre en Ukraine.
Nous sommes très reconnaissants envers le Saint-Siège pour sa compréhension tout à fait correcte et concrète de ce qui se passe en Ukraine. Le Saint-Père, dimanche dernier, a qualifié la situation en Ukraine de guerre. Les paroles du pape François aident tous les membres de la société, que ce soit ici en Italie ou partout ailleurs dans le monde, à comprendre la réalité de cette guerre. Par ailleurs, nous serions très heureux de voir le Vatican et le Saint-Siège comme un lieu où organiser des négociations entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine est complètement disponible à être représentée ici au plus haut niveau. Et dans ces négociations, nous serions aussi heureux si la Russie exprimait elle aussi une disponibilité équivalente à des discussions. Si cela peut se faire, cela montrerait le rôle très important du Saint-Siège.
Que répondez-vous à ceux qui attendent plus du Saint-Siège et du pape pour qu'ils condamnent nommément Vladimir Poutine et la Russie?
Holy See is already doing everything possible.
Le Saint-Siège fait déjà tout ce qui est en son pouvoir, j'en suis absolument persuadé. Si l'on me pose ce genre de questions, je dis toujours que Sa Sainteté et les personnalités du Saint-Siège font un excellent travail à différents niveaux pour aider l'Ukraine, pour exprimer leur proximité spirituelle avec des prières envers notre pays, pour aider l'Ukraine en lui apportant de l'aide humanitaire, pour aider l'Ukraine à organiser le plus rapidement possible des négociations qui pourront aider à faire cesser la guerre dans le pays.
Eric, donc cet échange avec l'ambassadeur d'Ukraine près le Saint-Siège, c'était il y a une semaine. Et là, en effet, on entend un diplomate très confiant dans la diplomatie vaticane, à savoir cette volonté de négociation. Et mercredi dernier, en effet, pour la première fois depuis le début de la guerre, le pape François s'est entretenu avec le patriarche Kirill en visioconférence. Et puis le soir, c'était dans la basilique Saint-Pierre, les diplomates en poste au Vatican se sont retrouvés pour une messe pour la paix.
Oui, absolument. Cette conversation entre le pape et le patriarche de Moscou était évidemment très importante. Les deux hommes s'étaient rencontrés il y a 6 ans à Cuba, déjà une rencontre historique. C'était une manière pour le pape de rappeler que la langue de la politique ne doit pas être utilisée en cette guerre. Le patriarche Kirill qui avait justifié l'invasion militaire de l'Ukraine, rappelons-le. Et puis cette messe était très symbolique aussi devant la plupart des diplomates ici au Vatican. L'ambassadeur russe et l'ambassadeur ukrainien ont participé à cette messe. On le voit, le Vatican et le Saint-Siège veulent garder tous les canaux ouverts pour maintenir le dialogue et envisager une paix future en Ukraine.
Eric Sennang, donc correspondant de RFI au Vatican. Alors parmi les initiatives des responsables chrétiens en faveur de la paix, on retiendra la venue le jeudi 10 mars à la cathédrale de la Sainte Trinité qu'est Branly à Paris de Mgr Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, et de François Claveroli, président de la Fédération protestante de France. L'objectif était de rencontrer le curé de la cathédrale et de lui remettre 2 lettres destinées au patriarche Kirill de Moscou. On écoute François Claveroli.
Nous avions pris l'initiative d'écrire chacun une lettre, donc Mgr Éric de Moulin-Beaufort pour l'Église catholique et moi-même pour la Fédération protestante, et d'avoir un rendez-vous avec le père Maxime Koulitov à la cathédrale de la Sainte Trinité pour lui remettre ses lettres à destination du patriarche de Moscou. Et nous avions rendez-vous quand nous avons appris quelques heures avant, enfin, que ce rendez-vous ne pouvait pas avoir lieu. Et donc nous avons été reçus par un prêtre de la cathédrale à qui nous avons pu remettre tout simplement ces lettres sans avoir évidemment le temps d'un entretien comme nous l'avions désiré.
Est-ce que vous avez été étonné ?
Et oui, parce que justement nous pensions que c'était à Paris en tout cas, et dans le contexte français, une occasion importante de pouvoir d'abord nous exprimer et puis ensuite entendre le père Maxime Politov nous donner quelques informations sur la position du patriarche de Moscou.
Et alors précisément, vous l'avez donc interpellé, le patriarche de Moscou, donc le patriarche Kirill, avec cette phrase qui mérite une explication. Vous l'avez interpellé sur l'importance du sens de sa responsabilité dans ce conflit. La phrase est forte.
Oui, parce qu'il s'est exprimé très clairement sur ce sujet dans les livres, une prédication publique, donc finalement en appuyant, justifiant d'une façon ou d'une autre l'agression russe en Ukraine. Or, comme vous le savez, le lien entre l'Église, le religieux, on va dire comme ça, et le pouvoir est toujours un lien qui pose question, en tout cas en Europe et dans le christianisme occidental. Cette proximité-là nous interpelle, c'est la raison pour laquelle je parlais de responsabilité dans ce cadre-là. Voilà.
Et vous parlez également, effectivement, ce mot qui commence à revenir, de nationalisme religieux, François Claveroli.
Pour moi, c'est une question quand même fondamentale, parce que depuis des années et des années, pour ne pas dire des décennies, la question du lien entre le politique et le religieux se pose et est problématique. Aujourd'hui, dans un conflit comme celui-ci, l'élément religieux ne peut que contribuer à brouiller les cartes et sans doute même à envenimer la situation. Même si il y a beaucoup d'Ukrainiens orthodoxes et de Russes orthodoxes, Il y a aussi en Ukraine et en Russie d'autres croyants, d'autres personnes venues d'autres pays, comme on le voit d'ailleurs au niveau des réfugiés, des gens qui sont européens, asiatiques, africains, qui ne sont ni orthodoxes, ni de tradition orthodoxe russe ou grecque. Et donc l'élément religieux, si vous voulez, rajoute de la complexité et peut même contribuer à envenimer le conflit. Et donc je pense que cette distance nécessaire entre le religieux et le politique doit être rappelée.
Père Jivko Panev, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans ce studio. Donc, je rappelle que vous êtes prêtre, théologien et le cofondateur d'orthodoxie.com, un site d'information sur le monde orthodoxe créé en 2005.
Exactement. Donc, nous avons créé avec Christophe Levallois, donc 2005, ce site pour répondre à un besoin né avec l'apparition des nouveaux médias, donc l'Internet. Il y avait un vide et puis nous avons modestement commencé à publier les informations venant de toutes les sensibilités du monde orthodoxe, de tous les courants théologiques, ecclésiologiques, canoniques. Et aujourd'hui, nous sommes une petite équipe de 4 personnes venant de toutes les juridictions de Constantinople, de Moscou, de Serbie. Voilà, donc on travaille tous les jours. Le site n'a aucun soutien financier. On est bénévole parce qu'on voit comme un service pour l'Église et un service aussi pour la vérité, parce qu'il y a une vérité qui est très complexe et compliquée en ce qui concerne le monde orthodoxe.
Bon, un monde effectivement très très complexe, tout à fait bousculé par cette guerre. C'était récemment, c'était La Croix, le quotidien La Croix, qui titrait « Ukraine, l'orthodoxie fracturée ». Ok, pour l'Ukraine, ça on peut le comprendre, on l'expliquera tout à l'heure, mais aussi, d'une façon générale, on se dit, est-ce que l'orthodoxie n'est pas effectivement très bousculée par cette guerre? Il y a des positions différentes, évidemment, à commencer par le patriarcat de Moscou.
Oui, quand on parle du monde orthodoxe, la commune orthodoxe, si vous permettez, il faut dire à vos auditeurs qu'il y a 14 églises autocéphales qui se reconnaissent comme églises, qui sont en communion. Cette communion s'exprime par des racontes, concélébrations, et surtout que chaque primat d'une église locale, pendant la messe, la liturgique expression de la croyance de la foi chrétienne tout court, comme pour nos frères catholiques, chaque primat mentionne, à un moment donné, tous les primats de toutes les autres églises qui sont en communion. Donc, maintenant, nous avons 14 églises autocéphales ou locales.
Autocéphale, ça veut dire chaque église nomme les primats, c'est ça?
Voilà, l'autocéphalie, c'est l'expression de la conciliarité de l'Église, de pouvoir elle-même choisir son primat. Par contre, à partir des 19e siècle, l'autocéphalisme devient une norme, donc une sorte, si vous voulez, utiliser l'Église comme un moyen, utiliser l'Église par l'État, comme moyen de confirmer une identité étatique, une identité nationale. Et cette idée n'est pas dans la tradition de l'Antiquité chrétienne orthodoxe.
Alors, il se trouve que le dimanche, on cite tous les primats des églises orthodoxes. C'est bien cela, dans la liturgie, non?
Chaque liturgie, un primat d'une église locale, à un moment donné, mentionne tous les autres primats de toutes les autres églises qui sont reconnues comme églises autocéphales canoniques.
C'est ça. Et il se trouve qu'en ce moment, il y a des églises, on ne cite plus le nom du patriarche de Moscou.
À ma connaissance, non.
Moi, je l'ai lu, mais...
Vous avez lu, mais moi, je n'ai pas lu.
Oui.
Donc, je n'ai pas lu qu'on ne mentionne plus le patriarche de Moscou. Peut-être qu'il ne prononce pas le nom de Cyril,
oui.
Mais à vrai dire, Geneviève, je dois avouer qu'aucun patriarche n'a jamais, s'est jamais prononcé. Vous voyez, contre la position de l'État dans les conflits du XXe siècle. C'est une réalité.
Oui, actuellement, il y a quand même, par exemple, celui qui représente l'Église orthodoxe liée à Moscou, hein, en Ukraine, c'est-à-dire Monseigneur Onufre,
voilà,
c'est bien
il,
ça
oui, tout
lui,
à fait.
Il s'est carrément élevé contre la guerre. Hein.
Il continue. J'ai appelé hier la Lord des Gros de Kiev,
oui.
Donc, qui est sous la juridiction de Monseigneur Onufre,
oui.
qui est primat de l'Église orthodoxe ukrainienne sous juridiction de Moscou. Il continue toujours à mentionner le patriarche Kirill pendant la liturgie de la messe.
Alors, il s'est effectivement élevé de façon très forte contre cette guerre en parlant
exactement.
De Caïn et Abel. Hein,
exactement.
Comme deux frères, une guerre fratricide.
Mais écoutez...
Oui, c'est pas autre chose.
C'est autre chose, mais oui. il a tout à fait raison.
Mm-hmm.
Il s'agit d'une guerre fratricide. Vraiment, quelque chose d'horrible. Personne ne peut dire que c'est bien, c'est chrétien sur l'Évangile. Hein, donc,
bien sûr.
On est d'accord.
Et est-ce que cela veut dire qu'au niveau de la communion orthodoxe, qu'on comprenne bien, hein, donc de ces 14 églises autocéphales, eh bien, il y a des tiraillements, il y a des primats qui n'osent pas prendre position. Est-ce que d'autres, au contraire, prennent position? Comment ça se passe?
Toutes les églises, enfin, tout ce que j'ai pu trouver sur Internet, les déclarations,
oui.
Quasiment toutes les églises orthodoxes, de la communion orthodoxe, comme vous dites, condamne la guerre fratricide et il cite l'Évangile. Et le rôle de l'Église, est d'abord, c'est là. Donc, si nous sommes l'Église, nous sommes l'Église parce que nous sommes de la religion du Verbe. Et le Verbe est quelque chose d'important et il faut dire les choses comme elles sont. Donc, il s'agit d'une guerre fratricide et il faut tout de suite l'arrêter.
Et
donc,
est-ce que ça
mais
fait
d'ici là, de dire qu'ils interpellent personnellement Cyril, toutes les Églises, non.
Est-ce que Kirill va vers un isolement ou pas?
Dans quel sens, isolement?
Dans cet isolement, c'est-à-dire que si de plus en plus d'évêques orthodoxes eh bien, s'expriment contre cette guerre, est-ce que petit à petit, Kirill, le patriarche Kirill de Moscou, va se retrouver isolé dans sa position guerrière, on va dire?
Si on parle des évêques de l'Église russe,
oui.
Moi je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que la grande majorité... s'est prononcé et interpellé Cyril ou Kirill, comme vous voulez, personnellement. Cyril, vous savez, il y a deux choses. Il y a dimension politique et prise de position politique. Et autre chose, c'est ce lien canonique, vous voyez. Dans l'Église orthodoxe, nous n'avons pas la papauté. Voilà, quelqu'un, fut-il le patriarche super-méga œcuménique, n'a pas cette autorité qui a le pape. Et nous avons cette liberté de dire ce que nous pensons. Bien évidemment, cette liberté, exercer cette liberté à Russie, et c'est un danger. Vous pouvez risquer votre vie d'être emprisonné. D'accord. Et donc, il faut avoir le courage. Et bien évidemment, si les gens sont offusqués par l'attitude des Cyrilles, c'est parce que il a une grande responsabilité, parce qu'il a une grande fonction, mais une grande responsabilité rime avec aussi des grands sacrifices.
C'est-à-dire
quand vous êtes patriarche, vous
oui.
avez une grande responsabilité. Comme on dit en français, une grande responsabilité demande de grands sacrifices. Sacrifice, c'est quoi? Si vous n'êtes pas contre la guerre, donc il faut le dire. Si vous ne le dites pas, ce n'est pas parce que vous avez peur ou parce que vous êtes d'accord. Donc, qu'est-ce qui est dans la tête de Kirill ou de Cyril, je ne saurais pas vous dire.
Vous auriez du mal à dire, effectivement, si c'est un homme tiraillé, par exemple?
Je ne sais pas. Moi, je lis ce qu'il dit. Ce qu'il dit, pour l'instant, il est dans cette optique de sauvegarder l'unité de l'orthodoxie russe et l'unité, ce qu'il appelle la Russe, R-U-S, apostrophe.
Oui, effectivement, la Russe de Kiev. Enfin, on vient toujours à...
Le Russe de Kiev, c'est pas seulement le Russe de Kiev, c'est comme ce qu'ils disent les Russes, la Russe de Kiev, R-U-S, apostrophe, c'est le tronc duquel sont sorties trois branches, trois nations, trois peuples, ukrainiens, russes et biélorusses.
Alors, cette église orthodoxe ukrainienne, donc deux églises, il y a l'église qui est liée au patriarcat de Moscou, elle a beaucoup plus de paroisses, bien sûr, plus d'évêques, oui. Ça c'est normal, historiquement. Et puis l'autre église, donc l'église autocéphale, qui a obtenu son autocéphalie, donc grâce au patriarche de Constantinople, Bartholomée. Est-ce que vous pensez que ces deux églises, qui aujourd'hui ont affaire à cette agression, peuvent un jour se réunir, alors qu'hier elles étaient effectivement en concurrence?
Mais
sinon,
effectivement, elles peuvent se réunir.
Est-ce que c'est
moi,
possible,
je pense
ça
que, est-ce que je pense que devraient se réunir. Mais vous savez, dans l'Église, ça, il faut que les auditeurs comprennent. Dans l'Église, il y a aussi le besoin de respecter, bien évidemment, le sentiment national, le sentiment de votre identité, la liberté de conscience, mais aussi il y a l'exigence de respecter certaines règles canoniques. Et pour nous, les canons ne sont pas des règles, vous savez, qui viennent d'en haut, c'est l'expression de la ecclésialité de la communauté. Le problème de cette Église, ce que dit le Patriarcat de Moscou et l'Église orthodoxe ukrainienne, Patriarcat de Moscou, que les ordinations épiscopales ne sont pas canoniques. Donc, ils disent que les évêques qui font partie de cette nouvelle Église n'avaient pas une ordination canonique, qu'ils étaient en fait des laïcs qui sont ordonnés. Voilà, donc c'est une exigence canonique. D'ailleurs, le primat de l'Église d'Albanie, qui est un grec, il le dit aussi. Il y a un problème. Donc il faut au préalable, pour que cette union se fasse, que régler aussi cette
problème du canonique. Cette église, vous voulez dire
le statut de certains évêques qui sont dans cette église. D'accord. Voilà. Donc et il faut aussi que toute la communion orthodoxe reconnaisse cette nouvelle église qui serait une fusion de l'église orthodoxe ukrainienne Patriarcat de Moscou et cette nouvelle église orthodoxe d'Ukraine Patriarcat de Constantinople.
D'accord, effectivement. Mais pour vous, ça vous semble possible ou c'est absolument...
Tout est possible quand on a la bonne volonté. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'interviewer, deux semaines avant l'agression russe, le numéro 2 de Patriarcat de Moscou, Mgr Hilarion Alfeyev, qui est à la tête du département...
Oui, qui vient à Paris récemment, oui.
Voilà,
oui.
Département des relations extérieures. Et je lui ai posé question, mais pourquoi vous ne donnez pas, finalement, l'autocéphalie pleine à cette église qu'on appelle Église orthodoxe ukrainienne, Église orthodoxe ukrainienne, Patriarcat de Moscou. Il m'a répondu, on ne peut pas donner l'autocéphalie à quelqu'un qui ne le demande pas. Mais c'était avant la guerre. Maintenant, au vu de tout ce qui s'est passé, je suis convaincu que Monseigneur Métropolite Onufre, donc il va le faire. Mais c'est mon opinion qui n'engage que moi.
Donc Mgr Onufre à la tête donc, de l'Église orthodoxe ukrainienne qui dépend du Patriarcat de Moscou. C'est un peu compliqué parce que les deux églises ont des noms très proches. Si vous... Et puis il y a l'autre Église orthodoxe d'Ukraine, elle, l'Église autocéphale. Il faut le préciser à nouveau donc, parce que leurs noms sont vraiment très proches.
Voilà, vous savez, pour une terminologie, c'est une traduction notamment de terminologie qu'utilise celle qui est rattachée à Moscou. Et elle s'appelle elle-même Église orthodoxe ukrainienne, donc l'adjectif ukrainienne. Celle qui est affiliée au Patriarcat de Constantinople, elle s'appelle elle-même Église orthodoxe d'Ukraine.
C'est ça, voilà. C'est ça. Donc, mais comme les deux noms sont très proches...
C'est très proche, on confonde.
Bon, mais peut-être qu'un jour, ça ne se confondra plus, parce que ça sera...
Prions le Seigneur. Prions le Seigneur.
Ils auront fait la synthèse, voilà, il faut prier.
Prions le Seigneur.
Merci Jif Kopanev. Donc j'incite les auditeurs à aller sur votre site orthodoxie.com parce qu'on y apprend beaucoup de choses.
Merci.
Et puis en ce moment, j'imagine pour vous que ça doit être assez difficile.
Très, hein. Très difficile. J'ai prié le Seigneur que la paix vienne le plus tôt possible.
Merci Jif Kopanev d'avoir été avec nous. Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delerue, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.